Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Le rendez-vous tech résume l'actu tech, internet et gadgets en une heure environ tous les mardis. Vous écoutez ici la version de rattrapage qui en condense l'essentiel en une dizaine de minutes le vendredi pour ceux qui ont eu une semaine un petit peu chargée. Si vous voulez les analyses les plus pertinentes et les plaisanteries les moins réussies, c'est la version complète qu'il vous faut. Bonne écoute! On va vous parler de la presse sur Internet, de la manière dont elle peut, elle doit fonctionner. Pour ça, j'ai le plaisir de recevoir... est-ce que je peux dire que tu es un trublion de la presse en ligne, Ulrich Rosier, l'un des chefs de Humanoïd. Suite à tes études de différents médias, et c'est pour ça que j'utilisais le terme de trublion, parce que vous réussissez avec vos modèles d'affaires dont d'autres disent qu'ils ne fonctionnent pas, et que tu as fait ces commentaires, que je me suis dit, bah, il est un petit peu en train de mettre des coups de pied dans la fourmilière, mais qu'est-ce que tu voulais dire en fait avec ces tweets ? Quel était ton constat quand tu as essayé de regarder l'état de différents médias édités en France sur le web et tes bonnes surprises et peut-être tes déceptions ?
On s'est aperçu à chaque fois que les choses allaient mal, souvent, bien souvent, dans les médias. Et quand on avait accès à ces données, donc qui sont évidemment confidentielles, mais ça reste des données d'une entreprise, quoi, mais il y avait une raison derrière qui était tout le temps différente, qui pouvait être différente, mais il y avait toujours une raison qui était bien identifiable. C'est vrai qu'aujourd'hui, je pense, et peut-être que je me trompe, parce que actuellement, dans le contexte actuel, il y a des entreprises, des secteurs d'activité dans lesquels c'est très difficile, mais on est dans un contexte particulier. Mais disons que dans un contexte classique, éditer un média, en vivre, c'est certainement un des métiers les plus difficiles. C'est déjà un métier qui se valorise très très peu par rapport à d'autres secteurs d'activité sur le web. Il faut souvent beaucoup travailler et intégrer beaucoup de métiers différents. Et ça, c'est la seconde chose, c'est-à-dire que faire du média, ça demande de savoir construire une marque média, créer du contenu, monétiser ce contenu. Techniquement, il faut être capable de distribuer ce contenu. Ça demande plein de sous-métiers qui sont liés au référencement, qui sont liés... Et en fait, c'est un métier hyper complet. J'ai l'impression que quand je parle avec d'autres entrepreneurs, d'autres secteurs d'activité, les problématiques qu'ils ont, j'ai l'impression de toutes les avoir. Mais alors qu'eux, nécessairement, les ont pas toutes.
Qu'est-ce que tu veux dire ? C'est un métier très complet. D'autres entrepreneurs, tu veux dire qui ne sont pas dans l'édition de médias, ils ont certains des problèmes que tu as, mais toi, tu as les problèmes de tout le monde.
Oui, ils vont avoir des problèmes.
Enfin, toi et les gens qui font ton métier.
Pour acquérir des nouveaux lecteurs, des nouveaux clients, bah, je les ai. Mais eux ne vont pas avoir nécessairement aussi la problématique de générer de l'audience pour des clients, tu vois. Enfin, c'est marrant parce que c'est un métier dans lequel on trouve... C'est vrai, du journalisme, mais aussi tout le travail quasiment d'une agence média, c'est-à-dire
justement,
tout le travail de communication, de marketing, etc.
Et du coup, est-ce que c'est ça que les autres, on parle, bien sûr qu'il y en a qui fonctionnent bien, il n'y a pas que Humanoïd qui réussit sur le web aujourd'hui, mais clairement, mais ceux qui n'y arrivent pas, est-ce que c'est justement par cette différence de génération, est-ce qu'il serait juste de dire... Ils n'ont pas envie de mettre les mains dans le cambouis de ces parties du boulot ou est-ce que tu peux nous donner des exemples finalement de ce que tu as constaté qui n'était pas...
Ouais, je vais donner des exemples, ça sera peut-être plus clair. Il peut y avoir un problème de modèle d'affaires. Bah, le problème de modèle d'affaires, tu vois, on peut par exemple donner l'exemple du papier, la distribution en kiosque du papier avec ce qui s'appelle Prestalis. Bah, ça met en péril des entreprises qui dépendent des fois à plus de 80-90%, même 100% de leurs revenus d'une entreprise qui fait la distribution des journaux dans les kiosques.
Oui, pour ceux qui...
Cette entreprise...
Pour ceux qui ne savent pas, Prestalis, c'est une société qui a effectivement quasiment le monopole de la distribution des titres de presse dans les kiosques, en physique, en papier. Et quand il y a un problème avec eux, et il y a eu des gros problèmes ces dernières années, eh ben, tu mets en péril une énorme partie de tes revenus. Ce que tu veux dire, c'est que ça, c'est une chose que les éditeurs ne prennent pas en compte, mais
Je pense que ça fait partie des choses. Tu vois, c'est quelque chose d'assez classique. Si tu dépends d'un distributeur, non. Si tu dépends d'une source de monétisation, d'une source de trafic, c'est par exemple une difficulté. N'importe quel entrepreneur, tu vois. Si toi, par exemple, tu dépendais d'une plateforme précise et que cette plateforme. C'est le cas de, tu vas me dire, c'est le cas de certains youtubeurs, hein, c'est le cas des youtubeurs généralement. D'algorithme peut mettre en péril ton activité.
Mais vous dépendez également de l'algorithme, dans une certaine mesure, de l'algorithme de Google, j'imagine.
Évidemment, mais en fait, notre travail depuis 10 ans, c'est de diversifier le trafic, les sources de trafic et les revenus.
Ce que je retiens de tout ce que tu as dit, en fait, jusque-là, c'est que tu as l'air vraiment, sincèrement convaincu de l'idée qu'on peut avoir de la pub, et même, on va plus loin, on peut vivre et vraiment connaître un certain succès dans le monde des médias en ne faisant que de la pub si on le fait avec soin et de manière parfaitement éthique. À chacun de juger en regardant les sites s'ils le veulent.
Oui, parce qu'en fait, et j'ai envie de dire, c'est possible parce que si tu construis une marque média forte avec du contenu de qualité qui plaît, donc qui satisfait les lecteurs, en fait, la valeur de tes emplacements de pub va augmenter. Et ça marche comme ça. Hein. Aujourd'hui, c'est comme ça. Le programmatique fonctionne. Pas simplement en mode « j'ai détecté que ce profil m'intéressait », mais c'est aussi « est-ce que cette pub est affichée dans un contexte de qualité ?» On appelle ça le « brand safety ». C'est-à-dire est-ce que ma pub va être affichée, va être associée à un média de qualité, va être associée à du contenu de qualité. Et en fait, toutes ces composantes rentrent maintenant dans l'équation d'affichage.
Ça veut dire qu'on peut avoir des pubs plus qualitatives et donc sans doute mieux payées si on a si on est une marque, un site qui est considéré comme un site de qualité. Alors c'est quoi la première préoccupation ? De quoi les gens parlent en fait ? Si tu vas à une soirée de networking ou je sais pas, tu passes entre les tables où il y a les petits fours et les gens parlent de quoi ? Qu'est-ce qui les préoccupe ?
Ils vont parler d'audience principalement, d'audience et de d'argent quoi.
Mais tu parles d'argent aussi quand tu parles de qualité de.
Oui,
de...
évidemment. Peut-être que c'est tout simplement des critères qu'on se donne, tu vois. Et ça se trouve on ne partage certainement pas les mêmes critères. Et je pense qu'il y a deux choses. Il y a des critères et aussi des valeurs. Le principal problème de ces gens-là, c'est qu'il manque un lien, dans ces groupes médias. Tu vas avoir des gens qui vont être spécialisés autour de l'expérience des performances, de tout ce qui est lié à affiliation. Donc, dans tous les grands groupes médias, tu vas avoir des gens qui vont vraiment dédiés autour de la performance, autour de la pub, tu vois, etc. Est-ce que ces personnes, à chaque fois, on leur rappelle quotidiennement ce qu'est l'objet de l'entreprise et la mission de l'entreprise et les valeurs de l'entreprise. Je suis pas sûr, eux, leur mission, c'est faire du chiffre d'affaires. Tu vois, ils se posent pas trop la question de savoir exactement ce que je t'ai dit, c'est-à-dire savoir...
comment ça va impacter l'expérience utilisateur
Ouais, et en fait, je pense que ces choses-là, ça peut être fait de deux façons différentes. Ça peut être fait en muselant complètement la façon dont fonctionne ton entreprise. En fait, nous, on ne touche pas de subvention publique, pas de subvention privée. On n'a jamais touché aux fonds d'argent, des fonds, par exemple, des fonds Google, le DNI ou des initiatives similaires. C'est le cas, par exemple, de Facebook. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, on ne construit pas un modèle d'affaires sur des subventions et des dons. Sauf si c'est... l'objet d'une association ou un objet spécifique, tu vois, dans lequel... Ouais. Mais c'est pas le cas d'un média.
Ouais, donc tu crois qu'il y a un petit peu un problème d'ajustement de la manière de voir les choses dans la presse française. De tout ce que tu dis, j'ai l'impression que toi, tu as l'impression, en tout cas, c'est ton analyse, que la compréhension du fonctionnement de l'écosystème n'est pas optimale chez les décisionnaires de cette industrie. Est-ce que je résume un peu ta
pensée ?
Moi,
je pense qu'ils ont des intérêts qui ne sont pas ceux des médias. Je pense qu'ils se sont posés certainement les mauvaises questions pour les médias. Et je pense que la réponse qui est donnée ne va pas aider les médias.
C'est-à-dire que dans le cas de... pour revenir à celui-là, mais c'est juste une illustration de questions plus larges. Dans le cas de la question de la rémunération des médias par Google... dans le cadre de l'utilisation du contenu par Google News, on essaye de mettre des sparadraps sur les symptômes qui sont...
Oui, mais ça masque les enjeux réels, en fait.
Mais oui, mais les vraies problématiques, ça serait de se dire, plutôt que de demander à Google de nous ramener de l'argent et en plus de dépendre plus de Google, l'important serait peut-être de se demander quel produit est-ce qu'on est en train de faire. Et tu penses que les... Ils ne se posent pas cette question, en fait, dans les... Ils pensent pas produit pour leur...
Évidemment, ils doivent tous se poser la question, mais je pense pas qu'elle soit, ça soit une question qui est prioritaire pour beaucoup d'entre eux.
Et voilà, c'est tout pour cette semaine. Je tiens, comme toujours, à remercier du fond du cœur les auditeurs qui soutiennent financièrement l'émission sur patreon.com/rdvtech. Sans eux, elle n'existerait tout simplement pas. Vous pouvez commenter l'épisode sur frenchspin.fr et me retrouver sur les réseaux. Je suis NotePatrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Tous ces liens et ceux des formidables invités qui m'ont accompagné dans l'épisode sont dans les notes de l'émission. Je vous fais de grosses bises et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao!
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.